Bonjour à tous et à toutes. Je suis Loïc Leclerc, je suis Managing Partner de PwC Société d'Avocats et je suis ravi de vous accueillir ce matin au grand rendez-vous du Legal. Vous êtes 350 inscrits, donc ce qui est une très belle participation. Et ce grand rendez-vous est un signe de la dynamique de notre practice Legal, forte de 100 juristes sur le territoire, à la fois à Paris et dans nos régions. Notre département Legal est reconnu chaque année dans les plus grands classements français et internationaux, tels que le Legal 500 et le classement Dupont cette année, ainsi qu'Options et Droit des Affaires, dans de nombreuses expertises. Et nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter ce matin un certain nombre de nos experts. Cet événement est inédit et très riche. Hein, se déroulera sur 3 heures autour de sujets à fort enjeu. C'est un parti pris d'avoir choisi des sujets qui vous concernent et qui sont d'actualité. Il y aura 5 thématiques, un panorama, donc je dirais une grande richesse d'informations. Les thématiques seront autour de thèmes aussi divers que les marketplaces, l'anticorruption, la cybercriminalité ou le carve-out, notamment, qui aura également une approche pluridisciplinaire. Et donc un panorama de l'actualité sera également à votre disposition ce matin. Je souhaitais bien sûr adresser un grand merci à nos intervenants, nos 17 intervenants, ainsi qu'à nos équipes qui ont participé à l'élaboration de cet événement qui doit faire la fierté du cabinet. Je passe sans plus tarder la parole à nos deux modérateurs, Christophe Guénard et Suzy Maillot.
Merci beaucoup Loïc. Bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes ravis de vous retrouver pour ce grand rendez-vous du Legal. Je suis Christophe Guénard, associé dans la practice Legal et je suis ravi avec mon associé Suzy Maillot de vous présenter cette webcast, cette matinale inédite, hein, près de 3 heures sur des sujets phares que toutes nos équipes ont identifiés. Alors, les grandes thématiques, et Loïc en a un petit peu parlé, sont vraiment des thématiques d'urgence pour toutes nos practices. La première concerne les marketplaces. Aujourd'hui, on constate qu'une explosion des transactions en ligne, et donc nous verrons avec notre équipe quels sont les défis juridiques et les enjeux stratégiques pour les acteurs en ligne. Le deuxième thème tourne autour des dispositifs anticorruption. Dans le sillage de la réglementation loi Sapin 2 il y a 4 ans, nous nous interrogerons avec notre équipe spécialisée en éthique des affaires et en compliance sur les enjeux juridiques et stratégiques pour que les entreprises puissent mieux se protéger du risque corruption. Troisième thème, avec une résonance médiatique extrêmement forte autour des enjeux de cybercriminalité et de data breach. Et nous verrons avec notre équipe spécialisée dans le domaine comment, notamment, les directions juridiques peuvent être un acteur clé dans la stratégie de contournement du risque cyber. Quatrième thème, dans un monde mouvementé où les groupes réallouent leur business, leurs activités, avec notre équipe pluridisciplinaire, juridique, comptable, fiscale et sociale, nous verrons quels sont quels outils et quelles contraintes lorsque un groupe ou une entreprise souhaite se recentrer sur son cœur de métier. Et enfin, dernier et cinquième thème concernant les actifs numériques, nous examinerons avec notre équipe spécialisée la réalité juridique, la façon d'appréhender de manière juridique ces concepts, ces innovations technologiques. Bonjour Suzy.
Bonjour à tous. Merci, merci Christophe. Donc, Suzy Maillot, je vais vous accompagner avec Christophe sur toute cette matinée. Je réitère notre plaisir à vous accompagner aujourd'hui. Les thématiques, nous l'avons vu, vont être riches et la matinée va être riche. Une quinzaine, voire 17, effectivement, intervenants ce matin, chacun dans leur domaine de spécialité pour vous apporter vraiment la quintessence de ce qui est important à retenir sur les thématiques précédemment évoquées. Au niveau de la pause, vous aurez une petite entracte où Frédéric Danos, professeur des universités qui nous accompagne au sein du cabinet, vous fera une petite présentation des réformes juridiques à venir. Il y en a beaucoup, la rentrée sera riche au niveau juridique et on fera un petit focus notamment sur le droit des sûretés et le droit des procédures collectives. Un petit rappel, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. N'hésitez pas effectivement à poser toutes questions. Nous tenterons d'y répondre à la fin de ce webcast. Si toutefois, pour des raisons de timing, nous ne pouvons pas le faire, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons vers vous, bien sûr, à l'issue de ce webcast. Donc, nous allons démarrer. Avant le démarrage, je souhaite effectivement encore la bienvenue à tout le monde. Je remercie encore vivement nos intervenants et une petite pensée pour tous nos jeunes qui sont ce matin en terminale et qui planchent sur le bac de philo. Donc, une pensée pour nos jeunes et pour les parents qui sont aussi. Donc, merci à tous, bienvenue. Et je passe maintenant la parole à Christophe pour la première introduction.
Oui, merci Suzy. Alors, même si parfois le droit nous emmène sur des raisonnements philosophiques, on va tout de suite rentrer sur le premier thème autour des marketplaces. On a pu le voir, les derniers mois ont montré pour plein de business l'explosion des transactions en ligne, que ce soit via des plateformes qui parfois regroupent des modèles et des activités complètement différents. Alors, qu'il s'agisse notamment de géants du web, de start-up, de modèles gratuits, de modèles payants, de places de marché, de services d'intermédiation ou de référencement en ligne ou même de plateformes de classement et de comparaison de prix. Donc, avec notre équipe, notamment spécialisée en droit commercial, avec notre associé Edith Bachichetti, notre équipe spécialisée en réglementation financière, Nicolas Mordant-Crook, et notre spécialiste en données personnelles, Guillaume Rimbaud, nous allons là vous exposer les enjeux et défis juridiques des marketplaces et plus globalement des opérateurs et plateformes en ligne. Alors, bonjour à tous, bonjour Edith. Peux-tu nous exposer, alors je vois voilà Nicolas, mais Edith devrait apparaître, voilà, donc Nicolas et Edith. Bonjour Edith et bonjour et rebonjour Guillaume.
On va commencer par…
Voilà, c'est super de vous avoir tous les trois avec ce panel droit commercial, réglementation financière et données personnelles sur ce sujet qui même couvre des problématiques aussi fiscales et notamment TVA. Mais là, on va commencer avec toi, Edith. Peux-tu nous exposer aujourd'hui là les différents enjeux juridiques pour les plateformes en ligne?
Oui, merci Christophe. Alors, les transactions en ligne, hein, comme tu l'as évoqué, sont devenues un élément clé pour élargir sa visibilité, renforcer les ventes et répondre aux nouveaux besoins des clients à la suite de la crise sanitaire. Mais la France est plus dure que les autres pays à l'égard des plateformes ou des opérateurs en ligne. Les opérations en ligne sont de plus en plus réglementées avec de lourdes sanctions à la clé, alors qu'elles ne sont pas toujours bien sécurisées d'un point de vue juridique. Alors, pour choisir le modèle adapté, sécuriser son business en ligne et le développer de façon optimale, par exemple à l'international, il faut se mettre en conformité avec le droit de la consommation, le droit économique, le droit des données personnelles et le droit des services de paiement. Les plateformes et opérateurs en ligne sont en effet dans le collimateur des autorités de contrôle. En droit de la concurrence, la Commission européenne et l'autorité de la concurrence en font une priorité de contrôle pour 2021. D'ailleurs, vous l'avez vu, le 7 juin dernier, l'autorité de la concurrence a condamné une marketplace à une amende ramenée à un montant de 220 millions d'euros dans le cadre d'une transaction. Par ailleurs, les contrôles de sites Internet par la DGCCRF ont augmenté d'environ 40% en 2020 avec plus de 20 000 sites contrôlés en 2020. Et le contrôle DGCCRF d'un certain nombre de places de marché réalisé en 2020 a révélé un taux de non-conformité globale de 73%. Au-delà des contrôles administratifs de la DGCCRF, plusieurs plateformes ont été condamnées par les tribunaux. Et alors, bon, il y a énormément de condamnations judiciaires. Un exemple, une marketplace qui pouvait modifier unilatéralement ses conditions commerciales et fermer un compte client sans préavis ni motif a été condamnée à une amende de 4 millions d'euros pour déséquilibre significatif dans les relations contractuelles avec les tiers vendeurs. Donc, on voit que les enjeux de contrôle et de sanctions, y compris d'ailleurs de nature pénale, sont bien réels en droit économique et droit de la consommation pour les marketplaces, pour les opérateurs en ligne. Guillaume, qu'en est-il en matière de données personnelles ?
Merci Edith. Bah, pour comprendre les enjeux en matière de données personnelles, je pense qu'on va d'abord rappeler les bases réglementaires. La principale, le règlement général sur la protection des données, qui est en vigueur sur le territoire de l'Union européenne depuis mai 2018, c'est le fameux RGPD hein, qui met en place un canevas de règles à respecter, une documentation de conformité à élaborer par toute plateforme qui va être amenée à traiter des données personnelles de ses clients, utilisateurs, abonnés, en réalité toutes les plateformes. On a à côté du RGPD des réglementations qui sont, je dirais, annexes, mais qui sont quand même très importantes et qui font d'ailleurs partie du périmètre de contrôle de la CNIL. Sans être exhaustif, on peut évoquer les systèmes de protection, de prospection commerciale par moyen électronique. C'est géré au sein du code des postes et des communications électroniques, dont la règle de base, c'est le recueil préalable du consentement des prospects. On a aussi la question des cookies, dont le cadre réglementaire a beaucoup évolué récemment dans le sens d'un durcissement des obligations des plateformes. Ce sujet qui est brûlant et d'actualité sera détaillé un peu plus tard par Michael. Et selon moi, face à ces réglementations, les enjeux ils sont doubles. En premier lieu, naturellement, éviter les sanctions. S'agissant du RGPD, on rappelle l'article 83 qui prévoit des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. On est donc sur des sanctions financières très, très significatives. Alors, il faut faire attention parce qu'on parle beaucoup des sanctions contre Google, les sanctions récentes contre Google de amende administrative de 100 millions d'euros, amende administrative contre Amazon de 35 millions d'euros. On parle beaucoup moins des plus petits. Une start-up en livraison de repas de 60 salariés qui s'appelle Nestor et qui vient d'être condamnée. On a une société, une TPE de 2 salariés qui s'appelle PerformClick qui vient aussi d'être condamnée. Donc, faut faire attention. Hein. La taille de l'entreprise et la petite taille de l'entreprise n'est absolument plus une raison pour se dire les contrôles de la CNIL, grosso modo, c'est pas pour moi. En second lieu, et c'est à mon avis le plus important, c'est en fait l'enjeu d'image et de confiance. La perception des Français sur la question de leurs données perso, elle a beaucoup évolué ces dernières années. On est passé, grosso modo, d'un désintérêt quasi général à maintenant plus de 90% des Français qui estiment que leurs données sont précieuses et qu'elles doivent être protégées. Donc, dès lors qu'une plateforme va être prise la main dans le sac pour non-respect des règles de protection des données, bah, c'est son image et sa confiance qui vont se dégrader et par là même, en conséquence, au final, son chiffre d'affaires. Nicolas, s'agissant de l'application du droit des services financiers, et quels sont les enjeux pour les opérateurs en ligne ?
Alors, Guillaume, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le droit des services financiers peut entretenir des connexions avec le business des marketplaces dans le cas en fait où la fourniture des services purement marchands, je dirais, est adossée à certains services financiers. Dans ces cas-là, il va falloir effectivement aller rechercher un agrément ou, le cas échéant, être enregistré. Alors, de quel agrément parle-t-on ? En général, il s'agit de celui des prestataires de services de paiement, les PSP, comme on les appelle, parce que ce sont bien les flux de paiement qui sont concernés au premier chef, y compris d'ailleurs s'ils sont assortis d'une fonctionnalité crédit. Hein. Ces statuts emportent des contraintes assez lourdes, hein, qui sont celles d'un dossier d'agrément à l'entrée. Alors, les statuts les plus usités étant celui d'établissement de monnaie électronique ou d'établissement de paiement. On y reviendra. Ensuite, en continu, c'est aussi une obligation, un assujettissement à la surveillance de la CPR, des contraintes organisationnelles fortes, l'obligation d'affecter les fonds des clients à compte de cantonnement, etc. Alors, l'alternative que choisissent bon nombre de marketplaces dans notre expérience, c'est la possibilité d'être habilité comme agent de paiement et d'agir à ce titre sous l'ombrelle justement d'un PSP habilité, qu'il s'agisse d'une banque, d'un établissement de paiement, avec l'obligation, certes, de déployer en interne des dispositifs de contrôle interne du mandant et puis, évidemment, la possibilité d'être audité précisément par la CPR en cas de déploiement de contrôle sur l'établissement mandant qui serait prolongé jusque chez l'agent. Alors, en cas d'exercice non habilité de ces services de paiement qui constituent donc un monopole protégé par la loi, la marketplace ou ses dirigeants s'exposent à des sanctions qui sont théoriquement de 3 ans d'emprisonnement pour les dirigeants et de 1 875 000 € d'amende pour l'entité, en dehors surtout, je dirais, des peines complémentaires et de l'effet réputationnel qui est assez désastreux. Donc, ça n'est pas un sujet à prendre à la légère, mais encore une fois, ces contraintes et ces risques ne sont applicables qu'aux opérateurs dont l'activité satisfait certains critères, d'où l'importance pour chacun d'entre eux d'analyser de manière approfondie son business model.
Alors, c'est intéressant parce qu'à vous écouter tous les trois, on voit bien que les plateformes couvrent des modèles et des activités en réalité assez différents. Dans ces conditions, et là je me tourne vers Edith, comment peut-on dégager des spécificités selon ces différents business models?
Eh bien, Christophe, c'est la principale difficulté en droit français. Il ne va pas s'agir seulement d'appliquer une réglementation, mais de savoir finalement quelle réglementation appliquer. D'ailleurs, le contrôle DGCCRF 2020 évoqué à l'instant a révélé la réelle difficulté des entreprises à s'y retrouver dans ce méandre de réglementation. Déjà, on a des règles éparses et diverses qui ne sont pas regroupées dans un code ou dans une section dédiée, mais qui sont dispersées dans le code civil, dans le code de la consommation, le code de commerce, le code de la propriété intellectuelle, le code pénal, et on oublie bien sûr, sans oublier bien sûr les règles fiscales et TVA. Donc en fait, les opérateurs en ligne doivent qualifier leur modèle pour identifier les réglementations applicables qui se superposent alors un peu par strates. Pas forcément facile à s'y retrouver. On a tout d'abord les règles, et tout cela de façon un peu mélangée. On a tout d'abord les règles applicables à tous les opérateurs, qu'ils soient en ligne ou non. Là, on sait qu'il s'agit, par exemple, essentiellement de la communication d'informations précontractuelles. On a ensuite les règles applicables aux opérateurs en ligne, par exemple, le droit de rétractation de 14 jours au profit des consommateurs. On va ensuite ajouter d'autres règles si on a affaire à une plateforme d'intermédiation, une plateforme qui met en relation, et là notamment les règles issues du règlement communautaire Platform to Business. Et encore d'autres règles pour les plateformes de classement comparaison. Et toutes ces règles sur les opérateurs en ligne vont être plus ou moins contraignantes selon que le client final est un consommateur ou un professionnel, avec même des règles spécifiques additionnelles si on met en relation des consommateurs entre eux, par exemple via une plateforme comme Airbnb. Et bien sûr, en cas de développement à l'international, il ne faut tenir compte, se mettre en conformité avec les droits locaux et respecter l'interdiction du géoblocage dans l'Union européenne, ce qui signifie en pratique en fait qu'un consommateur peut acheter des biens et des services à un professionnel basé dans un autre pays de l'Union européenne aux mêmes conditions de prix que les clients locaux. Les clients étrangers ne peuvent plus être automatiquement redirigés vers un site de leur pays sans leur consentement. Guillaume, qu'en est-il ? Enfin, quels sont les points d'attention en matière de données personnelles précises précisément selon les modèles?
La principale difficulté qui est liée à la diversité des modèles, c'est la question de la qualification des divers intervenants qui vont être impliqués dans les opérations de traitement de données personnelles via la plateforme. La plateforme va en effet interagir avec de nombreux partenaires, le tiers vendeur, l'opérateur de paiement, éventuellement la maison mère de la plateforme, un prestataire d'analyse marketing, un transporteur, un assureur pour les produits et les services proposés. Bref, il y a vraiment une multiplicité des intervenants. Et la première analyse va consister à répertorier les différents flux de données afin de pouvoir qualifier toutes ces personnes. Et les qualifier comment ? Tout d'abord, déterminer le responsable de traitement, c'est-à-dire la personne qui détermine les finalités ou les moyens du traitement, étant précisé qu'il peut y avoir plusieurs co-responsables de traitement. Les sous-traitants ensuite, c'est-à-dire la personne qui opère un traitement des données pour le compte du ou des responsables de traitement sur la base des instructions de celui-ci, et puis les simples destinataires des données, c'est-à-dire les personnes qui vont recevoir communication de données personnelles sur habilitation du responsable de traitement. De ces qualifications vont découler des obligations très différentes sur la tête de chacun des intervenants et va nécessiter l'élaboration d'une documentation de conformité spécifique. Lorsqu'un client vient nous présenter un projet, parfois très complexe, hein, s'agissant de la multiplicité des intervenants et la complexité des flux de données, l'opération de qualification, c'est vraiment la phase préalable et indispensable à tous les travaux de mise en œuvre documentaire. Cette opération de qualification, il faut bien le préciser, hein, elle doit faire l'objet d'une réflexion écrite, puisque ça s'inscrit dans le cadre du principe de privacy by design. Le privacy by design, c'est quoi ? C'est l'obligation qui va peser sur le responsable de traitement de prendre en compte, dès la phase projet de son système, de prendre en compte les règles de protection des données afin que ces règles soient nativement gérées dans le système qui va être mis en place. Et ces analyses, bien sûr, doivent être documentées pour permettre aux responsables de traitement de démontrer le respect du privacy by design en cas de contrôle. Nicolas, quelles sont les zones d'interférence entre le droit financier et l'exploitation d'une plateforme ?
Alors Guillaume, on a objectivement un petit peu défloré le sujet déjà en parlant des agréments. Le sujet, c'est la directive services de paiement 2, couramment appelée DSP2, entrée en vigueur en 2018 et qui réglemente de manière harmonisée au plan européen l'ensemble des prestataires de services de paiement. Alors, les services nécessitant un agrément sous cette directive sont divers, hein, mais quand on les regarde individuellement et au premier coup d'œil, les marketplaces ne semblent en pratiquer aucun. C'est tellement vrai d'ailleurs que jusqu'à l'entrée en vigueur de DSP2, peu d'entre elles avaient ressenti finalement le besoin d'aller au-devant d'un agrément ou d'un enregistrement en qualité d'agent, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ce qu'elles font souvent est d'encaisser les fonds des clients pour les reverser ensuite aux marchands, évidemment. L'encaissement de fonds pour compte de tiers n'est pas un service de paiement. Et pourtant, dès avant l'entrée en vigueur de DSP2 en 2018, de nombreuses marketplaces ont reçu des lettres assez comminatoires, il faut bien le dire, de la CPR pour se mettre en conformité. Mouvement qui a suscité d'ailleurs pas mal d'émoi chez les opérateurs comme chez les juristes, à tel point que la CPR a dû justifier sa position dans une communication publique, ce qui n'est pas très courant. En fait, le régulateur voyait dans la fourniture des services de centralisation et d'encaissement des flux de paiement par la marketplace un double service de paiement qui ne dit pas son nom, en quelque sorte, celui d'acquisition d'opérations de paiement adossé en général à un service de virement. Mais la CPR, elle a été confortée dans ses raisonnements par un changement de périmètre d'une exemption qui existait déjà sous DSP1, celle de l'agent commercial, qui permettait d'exclure du champ de la directive les opérations de paiement réalisées via un agent pour le compte du payeur ou du bénéficiaire. Et cette exemption était mise en avant en réalité par beaucoup de plateformes électroniques agissant en qualité d'intermédiaire à la fois pour le compte des acheteurs et des vendeurs, sans disposer d'ailleurs d'une marge réelle pour négocier ou conclure l'achat ou la vente de produits ou de services. L'exemption a donc été resserrée sous DSP2 qui précise désormais que l'exclusion n'a vocation à s'appliquer que lorsque les agents agissent uniquement pour le compte du payeur ou uniquement pour le compte du bénéficiaire. En revanche, si la marketplace peut être considérée comme agissant pour les deux, et sauf évidemment si elle n'entre à aucun moment en possession des fonds, elle doit alors être considérée par défaut comme tombant dans le champ de DSP2, alors même qu'on a une certaine difficulté à qualifier les services de paiement précis qu'elle rend effectivement. Reste donc au marketplace la possibilité ou bien de ne jamais entrer en possession des flux, ce qui veut dire en réalité confier eh bien, toute la gestion des paiements à un prestataire habilité. Certains font d'ailleurs pas mal de publicité, vous l'aurez peut-être noté, autour de la prise en charge de ce fardeau réglementaire. Ou bien, par exemple, essayer de documenter le fait qu'elle n'interviendrait que pour le compte de marchand, ce qui est tout de même assez compliqué dans le chaînage des paiements à partir du moment où il faut bien aller collecter les fonds des clients. Ou bien encore, essayer de se glisser dans l'espace assez étroit, il faut bien dire, d'une autre exemption qui est celle dite du réseau limité, hein, prévue par la directive et reprise en droit français. Alors, cette dérogation permet la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d'un réseau limité d'accepteurs ou utilisés pour un éventail limité de biens ou de services. Bon, en pratique, et sans rentrer dans le détail, cette exemption marche dans relativement peu d'occurrences. Et même les plateformes qui arrivent à entrer dans son champ d'application doivent informer le régulateur si le montant de leurs transactions de paiement au cours des 12 derniers mois dépasse 1 million d'euros. Donc, on le voit, une portée assez limitée. Il reste un espace de liberté réglementaire, ayant dit tout ça, au regard de la DSP2 pour certains opérateurs, mais il faut bien avouer qu'il est assez limité et qu'en particulier celui associé à cette fameuse exemption d'agent commercial auparavant très utilisée est aujourd'hui une zone un peu grise.
Bon, alors, à vous écouter, c'est vrai que là, les réglementations applicables sont de plusieurs ordres. C'est un millefeuille, enfin, c'est un labyrinthe où il faut croiser en permanence plusieurs regards, plusieurs couches de réglementation. C'est très utile d'entendre votre point de vue. En pratique, Edith, quels documents doivent être revus et mis en conformité avec toutes ces réglementations, ce millefeuille de réglementation?
Bon, alors bien sûr, déjà il faut revoir la conformité du site, hein, mais aussi l'agencement des informations précontractuelles sur le site selon les contraintes légales, et sans oublier des mentions obligatoires sur le site, comme par exemple l'identification de l'éditeur, du directeur de publication, de l'hébergeur. Et on a également des contraintes de présentation additionnelles en cas de référencement et classement d'opérateurs sur la plateforme. Ensuite, bien sûr, on doit prévoir des conditions générales de vente ou d'utilisation qui vont être adaptées au flux et à l'activité et conformes aux réglementations. Alors, un point important, il ne faut pas oublier de préciser, au-delà des réglementations, hein, avec qui le client va contracter et qui est responsable, surtout en cas de plateforme d'intermédiation, de mise en relation. Bien sûr, prévoir les garanties et être très clair. Ça, c'est important en pratique sur les conditions de disponibilité et de livraison des produits qui tombent très facilement, en fait, hein, sous le coup des condamnations pour pratiques déloyales. Il faut bien sûr revoir le parcours client. Alors, quelques exemples, hein, le client doit voir apparaître, ce sont des choses assez basiques, mais qui est toujours bon, bien de rappeler, apparaître les différentes étapes à suivre pour finaliser sa commande. Il doit pouvoir vérifier le détail de la commande et le prix total de la commande et éventuellement corriger des erreurs avant de finaliser sa commande, c'est le principe du double clic. Il faut bien évidemment accuser réception assez rapidement par voie électronique de la commande. Quant aux factures, elles doivent comporter des mentions obligatoires qui vont être différentes, hein, on l'a déjà évoqué, selon qu'elles sont destinées à des professionnels ou à des consommateurs, et également pour l'international, différentes selon les pays locaux. On a des pays une nombreuse mission sur tous ces sujets. Guillaume va maintenant compléter peut-être sous l'angle des données personnelles. C'est une vue quand même très schématique, sachant qu'on fait une conférence beaucoup plus détaillée dédiée le 8 juillet.
Voilà. Guillaume. Donc, peut-être en faisant attention au timing parce qu'on a encore 5 minutes, voilà, pour la fin de votre présentation. Merci. Merci
Guillaume. Oui. Alors, en matière de documents de conformité, Edith, tu le sais, le RGPD est très, très exigeant. Alors, compte tenu du temps imparti, je vais être nécessairement incomplet. On essaiera d'être plus exhaustif lors de notre conférence du 8 juillet. De manière synthétique, on va évoquer le registre des activités de traitement, le registre qui doit permettre à l'autorité de contrôle de disposer sur demande d'une vue d'ensemble de l'ensemble des activités de traitement de données personnelles opérées par la plateforme, quel que soit son statut. On peut parler aussi de la politique de confidentialité, de la plateforme ou sa charte de protection des données ou tout autre titre qui lui soit donné. C'est avant tout le document qui va fournir à l'utilisateur de la plateforme l'ensemble des informations qui concernent les conditions de collecte, d'utilisation, de transfert, de stockage de ses données personnelles. Je ne donnerai pas la liste des informations obligatoires parce qu'elle est un peu longue. Elle figure à l'article 13 du règlement. Il y a ensuite les documents concernant les conditions d'encadrement des transferts de données en dehors de l'Union européenne. C'est un point extrêmement important puisque, en effet, tout transfert de données en dehors de l'Union ne peut avoir lieu que lorsqu'il entre dans le cadre des cas limitatifs visés par le règlement, soit parce que le pays tiers qui va recevoir les données fait l'objet d'une décision de la Commission qui lui reconnaît un niveau de protection adéquat, soit parce que le responsable de traitement aura mis en place une garantie appropriée telle que le recours aux clauses contractuelles type ou par exemple à un système de règles d'entreprise contraignantes. Ensuite, on a le contrat entre le responsable de traitement et son sous-traitant. L'article 28 du règlement les oblige en effet à établir entre eux un document contractuel qui va définir de manière impérative et précise l'objet, la durée des traitements, le type de données traitées, les catégories de personnes concernées et qui va mettre en place l'ensemble du canevas de droits et d'obligations entre le responsable de traitement et son sous-traitant. Citons pêle-mêle, pour ne pas prendre trop de temps, l'analyse d'impact relative à la vie privée qui est obligatoire pour les traitements les plus risqués, la documentation interne relative aux mesures techniques et organisationnelles qui vont garantir une sécurité adaptée, et on a aussi l'ensemble des procédures internes qui doivent être mises en place par la plateforme pour gérer, et c'est en général très compliqué quand il y a un gros volume de clients pour gérer les demandes d'accès, de rectification, de position, d'effacement et de portabilité des données des clients, ce qui peut, comme je disais, être très lourd dès lors qu'on est sur des plateformes à forte population de clientèle. Voilà, je ne vous avais pas menti. Le RGPD est très gourmand en matière de documents de conformité. De ton côté, Nicolas, que faut-il prévoir s'agissant des services de paiement ?
En une minute, Nicolas.
Si oui, vraiment en quelques mots, parce que tout va dépendre de toute façon de la structuration du business model. Et si on fait un focus sur l'organisation des paiements, si la marketplace n'est pas habilitée pour fournir ses services, elle va devoir contractualiser avec des partenaires PSP qui vont eux-mêmes contractualiser directement avec les marchands pour le versement des fonds, fournir les services d'acquisition d'ordre, etc. Ou bien elle est habilitée, elle peut l'être à deux titres, soit en tant que PSP agréé et auquel cas en termes documentaires, elle va devoir formaliser un dossier d'agrément qui est un processus assez lourd, il faut bien le dire, qui en fait couvre tous les aspects de l'organisation et du business de la future entité du sol au plafond pour aller très vite, avec des délais d'instruction qui sont en principe de 3 mois par la CPR, mais on va dire un petit aléa sur la computation du point de départ. Voilà. Ou bien elle est habilitée en tant qu'agent, auquel cas elle est enregistrée par son mandant. Dans les deux cas, en tout cas, elle peut contractualiser cette fois-ci directement avec les marchands au titre de l'acquisition des flux de paiement. Mais dans notre expérience, il est rare en fait qu'un agent ou un PSP acquiert directement l'ensemble des opérations de paiement sur tout le périmètre des moyens de paiement acceptés par une marketplace. Par conséquent, en général, il y aura nécessairement des partenariats avec d'autres PSP acquéreurs. Voilà, en définitive, et comme toujours, le diable est dans le détail et il est un peu compliqué d'aller plus loin sans avoir l'économie d'un schéma particulier à examiner, Christophe.
Exactement. Là, peut-être, alors, désolé, Nicolas et Guillaume, mais peut-être pour le dernier point sur les évolutions récentes et prévisibles, peut-être, Edith, en moins d'une minute, si tu peux évoquer le
point. Oui, Christophe, parce que alors, c'est vrai que les plateformes ou opérateurs en ligne font l'objet régulièrement de nouvelles réglementations. C'est important pour vous, mais on y reviendra le 8 juillet. En droit français, on pense bien sûr à la loi DADU du 3 décembre dernier qui a renforcé les pouvoirs de contrôle de la DGCCRF, notamment à l'égard des plateformes. Depuis cette loi DADU, le non-respect du règlement Platform to Business est devenu une pratique restrictive insérée dans le code de commerce passif d'une amende de 5 millions d'euros ou de 5% du chiffre d'affaires total réalisé en France. La même chose pour le règlement communautaire géoblocage, intégré dans le code de la consommation avec des sanctions. Vous devez penser aux lignes directrices de la Commission européenne du 7 décembre dernier qui précise de façon très détaillée les exigences en cas de classement et de référencement d'opérateurs sur une plateforme. Et surtout, très important, vous savez que la Commission européenne a adopté le 15 décembre dernier deux projets de règlement pour les plateformes en ligne, hein, le DMA, projet DMA, projet DSA, qui devrait être approuvé d'ici 2022. Alors, le DMA, mais on fait schématique, on y reviendra, il vise notamment à empêcher les plateformes contrôlées qualifiés de gatekeepers, de contrôleurs d'accès dans le secteur numérique, d'empêcher leurs pratiques abusives, hein, par exemple, ne pas empêcher les consommateurs d'accéder à des services d'autres entreprises en dehors de la plateforme, ou au contraire, permettre aux entreprises utilisatrices d'accéder aux données générées par leurs activités sur la plateforme, le tout sous le coup de sanctions qui pourront atteindre 10% du chiffre d'affaires. Alors, ce projet de DMA comporte aussi des dispositions relatives au contrôle des concentrations. Ça va être très important puisqu'il faudra informer la Commission européenne de tout projet de concentration impliquant un autre fournisseur de services de plateforme ou de tout service numérique, et ce, que l'opération soit actuellement notifiable ou non devant la Commission européenne ou l'autorité nationale selon les critères usuels. C'est très schématique. Guillaume, si tu veux dire quelques mots du projet.
Je pense qu'on aura malheureusement…
On y reviendra.
Mais en tout cas, voilà, votre présentation était passionnante et on voit les trois enjeux, et tu rajoutais presque l'enjeu aussi lié au droit de la concurrence. Donc, comme vous le précisiez tous les trois, merci encore, vous approfondirez ces sujets lors d'une conférence plus longue le 8 juillet prochain. Voilà, et vous recevrez une invitation. Merci à tous.